Vous écoutez
RMC.
L'Italie est-elle en train de changer sa philosophie de jeu? Le pays où gagner a toujours été la seule chose qui compte est-il en train de changer? Ciao Simone Rovera.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ça va Simone?
Oui, ça va.
Gonzalo est pas trop bruyant?
Non, tranquille, après...
Il est bien là, Gonzalo.
On verra comment il va fêter ça pendant toute la semaine.
On a avec également Valentin Poluzzi, journaliste correspondant de France Football en Italie, à Milan, auteur d'un article en septembre dernier dans France Football, justement sur le changement, une vraie tendance de philosophie au sein de la Serie A.
Article très intéressant.
Tu voulais en parler, Daniel, justement. Vas-y, Daniel.
Je l'avais mis de côté, cet article, parce qu'il était effectivement très, très intéressant. Il y a deux jours, j'ai utilisé les expressions Simone. Je sais pas comment on peut traduire ça en français.
C'est des néologismes.
Les jouistes et les résultatistes. Les résultatistes et les jouistes, ça a toujours été un peu une opposition en Italie. Comme en Argentine d'ailleurs, il y a quelques semaines, on avait un débat sur les grands pays de football et je disais c'est souvent les pays où il y a ces grands débats, ces grandes théories sur les plateaux de télé et tout ça. En Argentine, il y avait les billardistes et les menottistes et en Italie, il y a eu ce débat-là. Et dites-moi si vous êtes d'accord tous les deux.
Salut Valentin, en fait.
Salut Valentin,
bonsoir.
D'abord.
Bonsoir à tous.
Mais je trouve que ce débat a pris toute sa consistance.
Ciao Vale.
Ciao Vale.
Je trouve que Valentin, je le connais depuis des années. On s'est fait les matchs ensemble à San Siro, à Turin.
Alors Valentin,
c'est un cher ami.
Est-ce que ce débat n'a pas pris toute sa consistance autour de la question Massimiliano Allegri à la Juve? Qui, malgré tous ses titres, au bout d'un moment, a fini par, je ne sais pas s'il a lassé les gens, mais on s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on propose autre chose. Et s'il y a une soirée qui m'a marqué, moi, c'est celle où, à la télé, il y a eu cette embrouille phénoménale. Ça n'arrive pas, ça, sur nos plateaux télé, mais là-bas, oui. Où Allegri s'embrouille avec... rappelez-moi avec qui il s'embrouille.
Consultant de la Sky Italia.
Daniel Adani.
Avec Lele Adani, oui.
Ouais, mais qui est un ancien joueur.
Ouais, exactement.
Et donc il faut imaginer Jérôme Rotten et un entraîneur qui sont Allegri se casse.
En plus,
comment il s'appelle le joueur?
Non, un consultant, c'est un ancien joueur qui est à la télé, donc un équivalent.
Pour expliquer
on va dire comme
les personnages, Adani,
est-ce que c'est moi ou c'est Kevin Diaz?
Mais
c'est différent.
Non, mais un mec qui a des idées arrêtées sur le jeu, ce qu'il faut, machin. Et là, Allegri, mais l'envoie chier, c'est énorme. Ce débat, il est fantastique.
En fait, l'histoire, Daniel, pour resituer avec toi, Valentin également, il y a la défaite de la Juve en quart de Ligue des Champions contre l'Ajax. Les gamins de l'Ajax qui font une leçon de football, football esthétique, esthétisant.
C'est vécu comme une énorme déception en Italie, parce que la Juve pensait se qualifier.
Allegri répond à ce consultant de Sky Sport qui le remet en cause, dans son jeu un peu laborieux, un petit peu austère. Allegri répond, bien jouer n'est pas compliqué, or entre bien jouer et gagner, il y a une différence qui semble mince, mais qui ne l'est pas. Vous pouvez mettre des ailiers en latéraux, des milieux offensifs, et après, combien vous êtes classé? Deuxième, troisième, quatrième. Entraîner, ce n'est pas se mettre à une table et dessiner des schémas tactiques. Il y a d'ailleurs trop le théoricien en Italie. J'ai remporté, il le rappelle, 6 Scudetti. Moi, c'est la pratique qui compte. C'est une déclaration que tu as recueillie, Valentin.
Oui, enfin, c'est ce qu'il avait dit, effectivement, alors c'était un interjuve. Qui comptait pour pas grand chose. C'était pour, je crois, une semaine après l'élimination de la Juve contre l'Ajax, où déjà il s'est fait un peu rentrer dedans. Et puis là, Lele Adani, effectivement, qui est un ancien joueur, mais vraiment en mode théoricien en plateau. Et il était vraiment furax à l'église, je me souviens, parce qu'après il était arrivé juste après cet échange, il est arrivé en conférence de presse, devant les journalistes, devant le parterre journaliste. Et il gueulait, il fait, c'est la dernière fois que je parle à Sky et tout, etc. Et une semaine après, ils en avaient reparlé, tête reposée, et ils maintenaient sa façon de penser, c'est-à-dire que voilà, le beau jeu c'est bien, mais ça mène pas toujours au résultat. Et de toute façon, je pense qu'il y a un geste qui résume cette Juve et ce problème. C'était Cristiano Ronaldo qui, après le match contre l'Ajax, fait le signe avec ses doigts, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, on s'est chié dessus. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas osé. Jouer au
très
football.
Juste, très juste.
Mais justement, ce qu'il dit Allegri, ok, je le comprends, mais est-ce que ça passe peut-être en Serie A, mais ça passe peut-être, aujourd'hui, ça passe plus sur le champion, sur le, les coupes d'Europe.
C'est le sens de la réaction du
Exactement.
Consultant. Et ça suivait.
Aujourd'hui, on a les équipes qui jouent, c'est celles qui gagnent des titres. En tout cas, tu peux éventuellement mettre une tactique en place sur le court terme, sur un ou deux matchs, mais tu vois, sur le long terme, les équipes qui réussissent, c'est les équipes qui jouent.
Ouais. Et ça suivait effectivement, parce qu'Allegri a toujours traîné un petit peu cette image-là. Il y avait cette déclaration très forte il y a quelques années où il avait dit si vous voulez du spectacle, vous allez au cirque. Et ça, en Italie, un pays où tu vois, par tradition, il y avait plutôt les résultatistes. Mais les jouistes sont quand même forts parce qu'ils sont emmenés par Sacchi dans les plateaux télé et tout ça. Donc à chaque fois, ça donne des débats enflammés. Et donc la question que j'ai envie de te poser, Valentin, maintenant, et Simonet aussi.
Il va rester avec nous parce que tu as vu 22h56. On y va dans un instant. Ta question, tu la poses à Valentin, à Simonet. Bon, on vient dans 3 minutes, on continue ce débat-là. Sur le beau ou l'efficace, est-ce que c'est compatible? Tu veux rester 10 minutes de plus, Laure?
Allez.
Allez, tu restes, on va avoir des problèmes. Mais tu vas rester avec nous. A tout de suite pour la suite de l'after.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot.
Nicolas Jamain.
De retour dans l'Afterfoot, bien sûr, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten, avec Laure Le Payeur qui joue les prolongations. Laure, hein. ça va, Jérôme?
Ouais, en pleine forme.
En forme, hein.
Ouais.
Et Julien Cazard.
Je me suis mis un petit peu loin à cause de mon haleine fétide.
Ton haleine est légère, on le sait.
Mais c'est bien parce qu'on y gagne capillairement avec toi en termes de barbe, de cheveux par rapport à Gilbert. C'est impressionnant.
Postiche,
c'est plaisir.
Postiche.
Voilà.
Rien de naturel. En fibre synthétique.
Tu faisais partie du gang? T'es postiche ou pas du tout, toi?
C'est bon.
Tant pis.
Ouais. Toujours avec Valentin Poluzzi également, journaliste correspondant en Italie pour France Football, et Simone Rovera. On va prolonger le sujet passionnant, bien sûr. On en parle avec Daniel à l'instant. Valentin, c'est vrai qu'il y a une vraie résonance en ce début de saison en Serie A. Il y a des conséquences à cette volonté, peut-être, d'être plus esthétique qu'efficace. En tout cas, les deux sont liés.
Oui, il y a du coup une espèce de révolution, on peut appeler ça, c'est-à-dire des coachs jouiste, pour reprendre le terme de Daniel, qui a un néologisme qui passe très bien. Et voilà, Paolo Fonseca, le nouvel entraîneur de la Roma, donc il était au Shakhtar Donetsk avant, donc 4-2-3, ça joue au ballon. Jouiste et résultatiste, si vous voulez, pour reprendre le terme italien, on pourrait scinder ça entre les entraîneurs qui font jouer les joueurs au-dessus du ballon et les joueurs en dessous du ballon. Voilà, c'est une image, je pense, qui est... On saisit bien de quoi on parle. Avant à la Roma, c'était Ranieri qui est quand même plutôt vraiment un résultatiste. Ah oui. Conte à l'Inter, Di Francesco qui arrive à la Sampdoria, Andrea Azzoli au Genoa, bon ça c'est des entraîneurs un peu moins connus. Gasperini à l'Atalanta, voilà lui vraiment c'est l'entraîneur la hype du moment. Et puis Ancelotti, Montella, etc. Quoi. Et après le problème c'était de savoir si ça allait durer parce que ça commençait fort au niveau des moyennes de but. Il y a eu 1-4-3 lors des chaque trois premières journées de championnat, mais après voilà il y a les premières sentences qui tombent, il y a des équipes pour reprendre Guidolin hein, ce qu'il disait dans l'article de France Football, après au bout de la première trêve internationale il y a des équipes qui ont 3 points, puis il y en a qui ont 12 points, et puis il faut commencer à faire des choix effectivement. Di Francesco qui fait partie des jouistes
a sauté.
Andrea Zoli qui fait partie des jouistes et a sauté son deux clubs relégables.
L'entraîneur de Milan, Jean-Paul,
a sauté.
Ouais. C'est un contre-exemple, Jean-Paolo, parce que il avait fait du beau travail avec la Samp. Et proposer un jeu spectaculaire également.
Mais pour être jouiste, il y a aussi une affaire de contexte. Il faut vraiment être dans un club et qu'il ait le temps de mettre en place tout ça. Non, c'est ça, Valentin aussi t'en parle, ça.
Ah oui, mais Jean-Paul était comparé sous proportion gardée avec Sacchi quand il est arrivé au Milan en 86. Et Sacchi, il avait eu besoin de temps, effectivement. Au bout de 2 mois, il était sur la sellette. Je crois qu'il s'est éliminé contre l'Espagnol de Barcelone, il me semble, très tôt en Coupe de l'UEFA. Mais il y avait Berlusconi et Gagliani, et surtout Berlusconi qui a dit aux joueurs voilà, moi c'est Sacchi, il faut le suivre, ça marche comme ça, tandis qu'au Milan, Maldini qui l'a choisi sur recommandation de Sacchi était plus chaud pour le garder, mais c'était Boban, donc Maldini, directeur technique, et Boban, qui est un genre aussi de directeur technique, ils ont un peu le même rôle, lui était beaucoup moins chaud pour le garder, il a poussé, du coup le Milan va prendre Stefano Pioli qui pour le coup lui est un résultatiste. Voilà.
Simonet, j'ai envie de t'entendre là-dessus également. Toi, tu constates la tendance lourde. Tu l'as dit, Valentin, il y a une moyenne de but qui a explosé.
Simonet, lui, c'est un résultatiste. fan de Mourinho.
C'est vrai, Simonet ?
Oui.
Je suis 100% résultatiste, bien sûr. C'est mon ADN. Non, mais c'est vrai, les problèmes, c'est que, comme disait Valentin, c'est vrai, on est en train de voir que cette nouvelle vague risque quand même très gros, parce que même pour Fonseca, il y a eu de gros polémiques en début de saison, et là encore, le match nul face à Cagliari, au-delà de tous les soucis qu'il y a eu, les déclarations de Petra qui a un peu exagéré, à Rome, on sait très bien que la ville vit des débats, les supporters vivent des débats, mais sur Fonseca, on est très partagé, c'est-à-dire oui, c'est beau, mais on se demande où peut arriver les jeux de Fonseca. Et les têtes qui tombent, effectivement, sont les têtes pour l'instant des entraîneurs qui devaient proposer quelque chose de différent. Donc, c'est pas simple. Mais entre, moi, pour te dire, tu parlais d'Antonio Conte, je suis pas sûr que j'arriverai à le mettre entre les juistes, même si sa façon de pouvoir arriver au résultat, ça passe avec un jeu qui est intéressant, excitant, poussif, mais avant les matchs face à la Juve, lui-même, sur l'histoire des gagnés, il avait dit une phrase que ça entre bien dans les contextes, en disant, en Italie, on abuse du mot gagner, mais après, il y en a peu qui savent vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à gagner. C'est-à-dire, lui, c'est le premier qui met ses résultats devant tout le reste.
Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Conte, je ne saurais pas trop où le mettre. Il n'est pas tranché, lui. Il est plus...
Valentin.
Oui, il y a des hybrides. En fait, s'ils sont amusés en Italie, c'est moi aussi à faire des catégories, de classer à chaque fois les entraîneurs. Il y avait une catégorie plus ou moins hybride. Et il y avait Conte, notamment, et puis Ancelotti. Parce que Ancelotti, franchement... il a la réputation d'être un entraîneur ultra-offensif, mais c'est pas du tout le cas. Moi, je me souviens, quand il gagne la championnat avec le Milan en 2007, c'est parce que il enlève un attaquant, il met ce qui devait être Gilardino, et il met un milieu défensif qui est Ambrosini. Il passe en 4-3-2-1, c'est comme ça qu'il arrive à emporter la championnat.
Est-ce que dans tous les nouveaux, là, est-ce qu'il y en a, je sais pas si vous en avez parlé, qui est aussi jouiste, entre guillemets, que Zeman? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est le mec, c'est la référence le jeu d'abord, et le reste, on s'en fout, hein.
Ouais. C'est plus ce jeu,
ouais.
Ouais.
Le jeu,
quoi.
Ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, même aujourd'hui, non? En Italie.
De Zerbi, Simone, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, De Zerbi. Moi, je pense toujours à Di Francesco parce que c'est un peu l'élève de Zeman.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que peut-être De Zerbi un peu plus. On parle beaucoup, il faut l'attendre. Même de Liverani à Lecce qui a cette façon de jouer toujours vers l'avant et parfois elle prend des 4-0, mais il est capable d'aller gagner à Torino face au Torino. Après, dans les pragmatistes, on a oublié les autres adeptes du 3-5-2. Mazzarri et Simone Inzaghi. Donc, on se rend compte vraiment que la Serie A est presque partagée en deux aujourd'hui. Et en attendant de voir qui aura raison à la fin, parce qu'aujourd'hui, pour moi, les vrais débats résultatistes et juistes, c'est Antonio Conte face à Maurizio Sarri, sera la lutte pour les titres. Et ça nous donne une nouvelle vague, une nouvelle veine, un nouvel esprit de cette...
Ouais, mais bon, Sarri, peu importe, effectivement, il est dans la catégorie juiste, mais avec l'équipe qu'il a, on a vu sur ce match-là qu'il est quand même super... La supériorité, elle est claire intrinsèquement au niveau effectif. Donc,
oui, mais les buts qu'il met la Juve pour le 2-1, ça arrive après 24 passes consécutives, une longue phase de possession, des touches de balles rapides vers l'avant, surtout sur les deux dernières passes, qui avec Allegri, c'était plus rare de voir.
Oui, ça c'est sûr.
On est en train de... Pour moi, avec Sarri, oui, on est en train de voir la révolution. Mais après, lui, il a la force des moyennes de la Juve derrière.
Ouais, voilà.
On ne pouvait pas attendre de voir une révolution à la Sampdoria ou au Genoa. Et sincèrement, Milan... On avait la sensation, pour moi, j'avais la sensation depuis le début que Gianpaolo n'avait aucune chance d'arriver à imposer son jeu. Parce que Milan a besoin d'autres choses que de faire du beau jeu. Il a besoin de faire du résultat et il a besoin de retrouver la Ligue des Champions. Il a besoin
faire le résultat, c'est pas opposer au beau jeu. Il faut faire très attention à cette formule.
Ça peut être compatible.
Il faut jamais opposer ça. Il faut jamais opposer ça. La plupart te disent aujourd'hui que la meilleure moyen d'arriver au résultat, c'est justement de jouer. Il faut pas entrer dans cette opposition là qui, selon moi, fait pas du tout avancer le débat.
Moi, j'ai l'impression qu'en Italie, tu peux bâtir un beau jeu si t'as pas forcément besoin de faire des résultats. Et dans les dernières années, les équipes qui avaient vraiment besoin de faire des résultats,
si t'es soutenu et que tu peux bosser, surtout.
Nous, en France, on a des pragmatistes et Amiens.
Mais non, mais c'est ça. Mais attendez, on peut changer le débat, on peut l'adapter à la France. Un exemple de résultatiste français aujourd'hui.
Bah, tous.
Tazakarian.
Quoique.
Ouais.
Quoique. Au final, il finit, passe par être un jouiste.
Un Gourcuff, quand même, c'est un jouiste.
Bah, pas cette année, hein.
Pas pour l'instant, Gourcuff. Pas cette année. C'est résultatiste pour l'instant, Gourcuff.
Dans ses idées, au moins.
Oui, mais les idées, c'est une chose, et
l'application. Parfois, l'application, ça varie, mais.
Ah, bah, quand t'as pas loi, t'es pas jouiste, hein.
Deschamps, c'est le résultatiste, c'est un évidemment. Enfant de la Juve et Deschamps. Donc,
Laure, c'est qui ton symbole du résultatiste?
Galtier, c'est un résultatiste, à mon avis.
Galtier, ouais.
Guy Stéphane, peut-être.
Julien Stéphane.
Julien Stéphane.
Julien Stéphane, tu veux dire?
Julien Stéphane.
Ah non, moi j'en parle plus. Là, c'est bon.
On va le regarder, Jérôme.
Nous, on a des résultatistes qui n'ont pas de résultats. C'est quand même un principe extraordinaire. On a inventé ça, nous.
Mais t'as
des
joueurs
qui jouent pas.
Des joueurs
qui jouent pas.
Des joueurs
qui n'ont pas de résultats.
Laure, après, tu
joues. Moi, je suis jouiste.
Tout le monde peut dire ça. C'est facile quand t'es pas en poste.
Non, mais il y a peut-être beaucoup de gens aussi chez nous qui n'ont pas d'idée, tout simplement. Il y a l'autre catégorie,
c'est les non-idées.
Et en fait, résultatiste ou jouiste, ça me fait rire. Le but du foot, c'est quand même
de jouer pour avoir le résultat.
C'est de jouer pour avoir le résultat.
Bah, mais oui, mais gagner en étant beau, c'est toujours pareil. Quoi. L'entraîneur, il peut mettre ce qu'il veut en place. Si t'as aucun résultat, les joueurs, d'un moment, ils lâchent, et qu'ils soient jouistes ou pas. Hein. C'est une vérité, c'est pas faux.
Aussi.
D'être dans un vestiaire. Ouais. Après.
Non, mais ça dépend avec.
Ouais, mais en franchement, gros, l'idée,
franchement,
c'est avec
Jérôme,
quand t'es joueur, quand tu t'ennuies sur le terrain, tu
dois. Si
toi, t'avais demandé que de défendre, par exemple, dans un système où on t'avait dit, voilà, tu défends,
compter au bout de deux ans, s'ils n'ont pas gagné la première année, les joueurs ont du mal.
Bah oui, mais parce que t'as des méthodes qui sont en place, c'est pas forcément parce qu'il est résultatiste, juste ça. C'est qu'il a des méthodes.
Parce qu'il enlève le plaisir.
Mais oui. Mais c'est ça le plus dur en fait quand t'es coach, que t'amènes un groupe, t'as les matchs, mais t'as aussi ce qui se passe la semaine, c'est d'amener des inventions dans tes séances d'entraînement et de garder, de faire garder aux joueurs quand t'accumules les matchs comme ça, la même envie, tu vois, de venir sur le terrain, de se faire des passes, de marquer des buts, voilà.
C'est ça,
ça revient à ce qu'on disait, le truc du Paris Saint-Germain tout à l'heure, le schéma du Paris Saint-Germain, quand on disait le 4-3-3, le 4-2-3-1, le ceci, le cela, avec tel joueur qui va sauter devant et tout. Mais je suis désolé, mais
c'est le plaisir.
Mais oui, parce que il faut prendre le problème à l'envers. Pas l'équilibre, attention à l'équilibre, attention à ceci, cela. Mets le talent, ceux qui te font grimper au rideau, là. Mets-les sur le terrain.
Et moi, j'ai bien aimé.
Valentin, il y en a à voir que chaque entraîneur, il a beau être résultatif au jeu.
Valentin, vas-y.
Bien faire les choses.
Comment?
Guidolin, pour reprendre un peu ce que disait Jérôme, il a dit l'important c'est pas forcément de bien jouer, c'est de bien faire la chose.
Mais oui.
Et je trouve que c'est une bonne formule.
Mais la raison parce que là,
Guidolin est un sacré bétonneur.
Là, regarde, moi je suis bien placé. On se chope souvent et on s'est chopé avec Daniel sur Didier Deschamps. Moi, je veux bien qu'on dise c'est un résultatiste. Mais
oh non. C'est exagéré.
Mais le résultat, mais il fait en fonction de son groupe. Je suis désolé, les gars.
Je rappelle que c'est lui qui le choisit. Hein.
Non, il choisit les joueurs.
Le recrutement, lui, il a les pleins pouvoirs, je crois.
En fonction de son groupe, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux.
En termes de jeu, il peut faire beaucoup mieux,
Deschamps.
Mais tu peux jouer beaucoup mieux.
Bien sûr, tu peux jouer beaucoup mieux.
Mais la sélection, c'est différent. Je te parle en club.
Merci, Simonet.
Et moi, je l'ai eu.
C'est des idées aussi.
Ciao, Simonet. Merci, Simonet.
Pourtant, je sais que j'étais un joueur qui aimait avoir le ballon dans les pieds, qui aimait avoir de la possession, qui aimait
le mouvement
et tout ça. Avec Didier, je me suis régalé.
Parce que t'as eu le succès.
Merci Valentin également.
D'être dans la période la plus faste.
Merci à tous, bonne émission.
Valentin, merci beaucoup. Quand tu veux dans la
merci
période,
beaucoup, parce que merci. Le succès est très important pour les joueurs.
Oui, mais si t'avais perdu. Si t'avais pas eu de succès, voilà. Tu serais ennuyé. T'aurais retenu de l'ennui.
Peut-être, mais quel entraîneur, quand tu perds, t'as pas de l'ennui? Dis-moi.
Ah non, t'as des mecs qui te laissent quand même autre chose. Si, ça arrive, genre.
Je parle des journalistes.
Non, même les joueurs.
Les joueurs
qui passent avec Furlan, par exemple, même quand ils descendent, quand ils remontent et tout. Tu vois, par exemple, que cet entraîneur-là, dans notre football, on ne soit pas allé le voir un jour, parce qu'on va dire que lui, ce serait le leader des jouistes de notre football. Qu'il n'y ait pas un club qui ait essayé de lui dire, bon allez. Toi, on va te filer une équipe du top 5 au niveau financier dans notre football.
J'ai la réponse.
Personne ne l'a fait.
Moi, j'ai la réponse.
Aucun dirigeant n'a été foutu de le faire.
Parce que s'il passe le cap d'arriver dans le top 4 français, par exemple, il va se choper des joueurs du niveau international qu'il a rarement eu. Et forcément, les égos, les égos sont plus. Mais oui, mais lui, il est pas capable.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Ben alors moi, je vais te dire.
Si on lui avait donné,
il y a une période à Nantes où il est entraîneur de Nantes. Où moi, je me pose la question savoir. J'ai le président, j'ai le président Kita qui veut me faire venir. Et c'était Furlan l'entraîneur. Et ben Furlan, tu sais ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, ah, je sais pas avec le caractère qu'il a, comment je vais pouvoir le gérer.
Alors, ça, franchement, il aurait dû nous demander.
Pourtant, et pourtant, vu le.
On l'aurait rassuré.
Non, bah, excuse-moi, j'ai jamais eu de problème. Moi, il suffit. Bah oui. Non.
Mais il n'y avait aucune malice.
De... Non, mais sans déconner.
Média FC, n'importe quoi, c'est avec toi. Merci, Laure, on te libère. Merci.
Bravo, Laure.
Tu vas rester encore pour 15 minutes.
Tu vas rester pour un quiz.
Le bonheur d'y aller maintenant. Elle a peut-être une vraie vie, elle a différence de nous.
C'est le quiz.
Elle a pas une soirée après. Si tu veux, tu peux rester
avec moi sur le quiz. Tu fais le RMC Poker Show, puis avance pas ce soir.
Elle a de la route en plus, elle doit rentrer. Fred Hermel est avec
la route.
Salut Fred.
Hola Ticos. Hola Ticas, si elle m'entend encore.
Fred, c'est un jouiste. Je peux vous dire que Fred, c'est un jouiste. Mais même, même très tard.
Et même tout seul en plus.
Top. Ouais, souvent tout seul.
Ah bah attends, mais là, franchement, là, c'est. Tu mets la balle, je la reprends au vol. Enfin, c'est normal, enfin, je veux dire.
Tu mets la balle, ouais. Tu mets l'explose la balle.
Une pièce dans la machine et ça part. Fred, tiens, Fred et. Je vais l'énerver un peu. Zidane, c'est un jouiste ou un résultatiste?
Ah, c'est intéressant ce débat.
Ah, il est quand même.
Moi, je le penche plus résultatiste.
Il est très marqué histoire Juve.
Légèrement.
Il est plus soit c'est bien qu'espagnol quand même.
Attention, parce que
bien plus ça dépend Juve si on parle de la Real par tradition.
Si on parle de la philosophie générale de Zidane ou Zidane en ce moment? D'ailleurs, parce que en ce moment, il est résultatiste. En ce moment, le Barça est résultatiste. En ce moment, l'Atlético est résultatiste. C'est pour ça que votre débat m'intéresse.
Mais le Real, par tradition, se doit de cumuler les deux.
Ah, complètement.
Le Real n'a jamais voulu le résultat seul, sauf après des périodes de grande disette.
Non, alors je vais même te dire qu'en... quelle année c'est 2006, Capello est... Non, 2007,
il dégage,
Capello est viré alors qu'il gagne la Liga.
Ouais, il est
parce que c'était 1-0, parce que c'était un double pivot.
Ah, il y a des clubs qui peuvent pas satisfaire d'un seul des paramètres. Emerson. C'est ça qui est intéressant.
Exactement. Et c'est-à-dire, et franchement, moi, j'étais déjà là. On s'ennuyait, pour pas dire on s'emmerdait à Bernabéu. C'était le 1-0 à domicile. Dès qu'il y avait un but marqué pour le Real, on fermait tout à double tour et gagner la Liga, c'est quand même pas facile. Et il avait été viré à cause de ça. Donc, oui, dans la philosophie. Donc, ce que je voulais, j'ai lancé un petit peu le débat hier par rapport à ça. En ce moment, les trois premiers de la Ligue, alors que ici c'est hyper serré, vous avez vu, voilà, tout le monde
c'est les trois gros.
Ce sont trois, le premier L'Oréal, le deuxième le Barça, le troisième.
Ah bah là, Simeone,
qui ne joue pas bien.
Voilà, lui, t'es un résultatiste.
Oui, alors
qui Simeone.
Bah oui. Oui, oui, bah bien sûr, mais complètement.
C'est le champ du résultatisme, quoi. C'est l'apôtre.
Ah ben c'est l'apôtre. Oui. Même si c'est pas le plus en Espagne, le plus c'est le quatrième de la Liga. C'est pas le quatrième de la Liga. C'est Retafe. Il avait terminé cinquième l'an dernier. Ouais, je veux dire.
Moi j'aimais bien Javier Clemente aussi dans le genre.
dans le genre je fais de la dentelle. Clemente.
Alors,
là,
si tu t'endormais pas.
Ah ouais, c'était chaud. Quoi.
C'était horrible. C'était horrible.
Ah, la violence.
Mais Fred, on est là.
Non, j'ai mieux. J'ai mieux. Tomislavivic.
Oh, ouais, lui, il était résultatiste pour l'équipe d'en face.
Parfois. Hein,
Georges, bien sûr.
Arthur Georges.
Ah oui. Malheureusement, je suis là.
Fred, on voulait t'avoir ce soir avant que tu souffles un peu cette semaine.
Gagner
pour
évoquer zéro.
Vaïd.
Pour faire un premier bilan.
Aussi.
Ouais, mais Vaïd, il n'y a pas de résultat.
Pas tout le temps.
Pas tout le temps. Il y a toujours le résultat, je suis d'accord.
Fred, pour faire un bilan, on aime bien faire des bilans après 8 journées, nous. C'est le principe, ça veut rien dire. Mais quand même, on a longtemps parlé dans l'after le week-end ensemble, notamment du début de saison compliqué du Real, du Barça, de l'Atlético. Sauf que là, après 8 journées, ils sont en tête. 3 points d'écart.
Oui, mais enfin, tout le monde se tient dans cette Liga. Hein. Je veux dire, tu vois, entre le premier et le sixième, il y a 5 points. Voilà.
Toujours donc, le même qui va gagner, de toute façon.
Je sais pas. Je sais pas si tu peux me dire qui va gagner. En tout cas, celui qui joue le mieux au football, enfin, il y en a deux, ce sont les cinquièmes et les sixièmes, c'est la Real Sociedad et Séville. Franchement, c'est magnifique à voir.
Ils finiront quatrième et cinquième.
Pourquoi pas, je sais pas.
Non, mais il a le droit de souligner que ça joue bien et que ce soit agréable à regarder quand même.
Ah bah, franchement, la Real Sociedad, c'est magnifique. Après, c'est assez habituel de voir la Real Sociedad qui démarre toujours très bien et qui baisse en deuxième partie de saison. Mais j'ai vraiment le sentiment que Lopetegui à Séville est en train de faire quelque chose. Parce que c'est vrai que la Ligue Europa, c'est un peu, il joue avec l'équipe B quand même, hein, en Ligue Europa. Donc c'est quand même assez facile pour lui. Donc il a le temps de préparer ses matchs. Et même si vous allez me dire il a pris 4-0 au Camp Nou, mais sauf que le Barça de Lopetegui a eu la possession de la balle, a eu 5-6 occasions en début de match. Et en face il y avait Ter Stegen, et puis il y avait surtout un attaquant côté Séville qui s'appelle De Jong, qui a tout loupé, mais enfin but vide, il met une tête but vide, ça rebondit au-dessus de la barre transversale. Donc cette équipe de Séville a fait souffrir le Barça a été résultatiste, parce que en ce moment Valverde a besoin de résultats avant de montrer du beau jeu. Mais moi j'aime vraiment bien ce que fait cette équipe de Séville, et j'ai fait un petit tweet tout à l'heure là pour demander aux auditeurs de l'After. Leur question, me donner leur question sur la Liga, et beaucoup de gens me posent une question sur un certain Ocampos. C'est l'un des meilleurs joueurs de la Liga depuis le début de cette saison.
Alors, on s'inquiète pas du coup.
Combien il a coûté? 13 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. 13,
ça, c'est vraiment le coup de monde. Et ils le revendront à un club anglais 80 millions dans 2 ans.
Oh, tu vas loin. Tu vas un peu vite en besogne.
Lucas.
Bah, non, mais les Anglais achètent
Ocampos.
Lucas Ocampos.
Tu crois que si on leur vend Radonjić, profil
Radonjić, il le bonifie en Espagne.
Non, mais sérieux.
S'il lève la tête de ses golas.
Est-ce que vous avez regardé les matchs de Séville cette saison? Est-ce que vous avez vu Ocampos? C'est l'un des meilleurs joueurs de la Liga depuis début de cette saison. Voilà. Et à tel point que le commentateur vedette de la télé espagnole, qu'on surnomme Maldini, mais qui s'appelle Maldonado en espagnol, et on l'appelle Maldini, disait, franchement, moi je le suivais beaucoup à Marseille, je le trouvais très bien, mais je savais pas qu'il était aussi fort. C'est intéressant quand même de voir comment des joueurs peuvent.
Il est possible que la Liga les bonifie.
Contexte.
Après la première année où il est le pendant de Carrasco, Ferreira Carrasco à Monaco, il est pas mal, hein, avec Ranieri. Ça paraît loin, hein. Je reconnais que là, moins de 20 ans, là, ça rappelle plus. Bah, là.
En tout cas, ça se passe très très bien pour lui. Donc, beaucoup de supporters marseillais m'ont posé la question. Alors, je continue avec les petites questions comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui demandent des nouvelles d'autres joueurs. Est-ce que vous vous souvenez du Norvégien Odegaard?
Bien sûr, bien sûr.
Excellent.
Celui qui avait la grosse tête, là.
Doucement, y est.
Il est à la Real Sociedad.
Et il brille.
Et il est magnifique. Et il appartient toujours au Real Madrid.
Oui. Deuxième meilleur joueur.
Mais il a dégonflé le melon ou pas un peu?
Enfin, c'est son papa surtout.
Lui aussi, hein. Il voulait
parce
pas
qu'en fait, c'est l'histoire. Oui, parce que là,
on ne pas qu'il voulait pas. Il a 16 ans, mais il est titulaire. S'il peut prendre la place de Cristiano.
Exactement. Voilà, Daniel se souvient bien. C'était à l'époque où un certain Zinedine Zidane était entraîneur du Castilla en 3e division.
Exactement.
Et en fait, Martin Odegaard est arrivé. Vous vous souvenez, il y a quand même Manchester United qui avait
proposé. Il jouait avec Mariano Diaz, d'ailleurs.
Exactement. Voilà. Et en fait, il avait dans son contrat, son père avait fait inclure dans son contrat, alors qu'il était joueur du Castilla, qu'il s'entraîne du lundi au jeudi avec l'équipe A, et qui ne s'entraîne que la veille avec les joueurs du Castilla. C'est ce qui fait que les joueurs du Castilla ne lui passaient pas le ballon. Parce qu'il y avait déjà le melon.
Ils sont complètement tarés.
Non, mais c'est
les mecs qui acceptent de signer ça, c'est fort.
Non, mais moi, ce que je
oui, parce qu'à l'époque, mais tu sais.
Comment Véro a pas pu mettre une clause dans le contrat?
Alors, justement,
pour qu'au minimum, il soit dit le titulaire deux fois par semaine.
Non, mais le prochain contrat à Barcelone, il y aura ça.
Elle va le verrouiller.
Ça sera verrouillé. Oui, parce que, apparemment, mais bon, à prendre avec des pincettes. Véro se serait plaint du temps de jeu de son fils.
Dans l'expression, dans l'expression à prendre avec des pincettes, juste pour savoir, on parle de la pincette à sucre.
La pincette.
Non, la pince à piler plutôt.
C'est quoi la pincette?
Plutôt la pince à piler.
C'est la pince pour le thé, pour le sucre. C'est l'expression à prendre avec des pincettes. Ouais, délicatement.
Délicatement.
Tu prends le sucre pour pas qu'il tombe dans le.
Ah, c'est ça, t'éclate. Tu ouvres la petite pince en argent.
Oui, la pincette.
C'est pas un rapport au jeu du docteur Maboule? Il fallait pas que ça fasse net quand tu prends la note.
C'était bien ça.
Il y avait une facette.
Ça, c'est pas mal.
Oui, parce que pour que ça fasse contact,
c'était
même en l'air.
C'est pas la place de la fête foraine, l'arnaque où tu crois toujours que tu vas choper le truc.
Moi, j'ai déjà chopé.
Ah, la fête foraine, t'as déjà
chopé. T'as chopé la fête foraine. Mais c'est autre chose, toi.
Ouais, t'as chopé
autre chose. T'as chopé une vélo, toi, la fête foraine.
Mais c'est pas ça pour que ça rate.
J'en dis parce que les gars, c'est terrible.
C'est pas la
fluche. La rumeur Véro radio.
Il y a eu un flap dans le truc.
Ouais. Avec des pincettes. À prendre avec des pincettes. Il a fait le train photo.
Bon, alors donc, on en était à la pincette à sucre.
Pincette à sucre, ouais.
Ce que tu vas dire, c'est que le Barça serait intéressé. Oui, et tu crois qu'ils n'ont pas compris le Barça dans les négociations où ils ont fermé la porte tout de suite
À Véro, ils ont fermé la porte à Véro.
Oh non.
Ils lui ont claqué la, ils lui ont claqué la porte au nez. À Véro, ils ont fait ça.
Mais c'est comme au Real, je vous l'avais raconté, faut écouter l'after. Que quand ils ont vu les prétentions, ils ont dit non, on va pas négocier, c'est bien.
Non, mais là, c'est bon, ça va marcher, il va jouer à la Juve.
Ouais.
Si Véro s'énerve, normalement.
La Primavera, ça joue bien ou pas?
Les gars, attendez, Fred, reste avec nous, parce que à jamais, le plus grand des jouistes, c'est lui.
Envoyez-moi les adresses.
Rocco, c'est ding dong. Rocco, qui aime le beau jeu.
Ah ouais.
L'esthétique.
Ah bah oui.
Et le résultat
qui
aussi.
Et qui sait être efficace.
Ah oui, il est efficace. Le résultat.
Ouais, c'est surtout le résultat.
Oh Dieu, je pense.
Après,
oui. Il tire pas au-dessus.
Merci Fred.
Voilà, je pense que t'as bien fait de lancer le sujet.
Ouais, c'est le plus grand jouiste en solo de l'histoire de la Ligue. Il tire pas. Fred, excellente soirée. Et on avance, les gars.
On crache de ça.
Je vous rappelle que vous pouvez gagner deux places pour Bruges, Real, Bruges PSG, Ligue des Champions le mardi 22 octobre. Hein, vous envoyez foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16. Tiens, il y avait une info que je voulais vous donner, les gars. Une info assez plutôt insolite. Une fois que vous aurez pris vos esprits.
Ouais.
La VAR.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Écoutez cette histoire, elle est savoureuse. Aujourd'hui, lors du match entre Al Nassr et Al Fateh en Arabie Saoudite, la VAR a arrêté de fonctionner pendant de longues minutes.
Non, j'ai pas entendu ça.
Car l'un des employés du stade a débranché le dispositif de la VAR pour recharger son téléphone.
Respect.
Il a pris son câble iPhone, il a chargé.
C'est où ? Moi j'adore.
C'est extraordinaire.
Arabie Saoudite.
Ouais.
Un duel entre Al Nassr, un gros club.
Non, mais sans déconner.
Tu sais, c'est le mec qui tire sur un câble et qui éteint tout le stade. Tu vois,
c'est un peu ça. Ouais, c'est la blague. C'est Régis, c'est un con, quoi. C'est pas possible.
Oui, c'est un peu Régis, c'est un con. Julien.
Sinon, oui. C'est à moi que vous parlez ?
On en parle dans un instant.
Pipa, la sœur de Meghan Merkel.
Ça me fait penser que j'ai vécu une histoire quasi similaire à Marrakech un soir où on faisait le RMC Poker Show en direct là-bas.
Ah. Vas-y. Où,
j'avais tout installé, tout. En plus, moi, d'un point de vue technique, dès qu'il y a de la technique, je flippe à mort et tout. Et tout marchait une heure avant, tout marchait une demi-heure avant. J'avais fait 150 contrôles, 5 minutes de l'antenne, putain, ça marche plus.
Merde.
Panique pendant les 5 minutes, remonter le fil à la main, et un mec dans la cuisine qui avait débranché le truc.
C'est Moundir, ce con.
C'est Moundir.
Moundir n'était pas encore dans la RMC Poker Show. Bon.
Allez, on va dans un instant avec Daniel Riolo.
Tu vas le retrouver.
Avec Jérôme Rotten et Julien Cazard. Il y a une place à prendre ce soir au quiz.
Il dansait bien pourtant, c'est dommage.
Oui. Et deux places pour France-Turquie surtout à gagner. On a 20 places, hein, donc 10 gagnants. On donne ça par ticket de 2. À gagner ce soir dans le quiz de Julien Cazard. Appelez-nous et on choisira. L'after revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à minuit, à tout de suite.
Une seule envie de ma vie, c'est de voir les filles jouir.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.